confortablement confinés, lisez ou relisez les plus belles pages de la littérature française. Écoutez dans la voix de grands comédiens Le Rouge et le Noir de Stendhal, Phèdre de Jean Racine, Le Voyage de Jules Verne, Alcool de Guillaume Apollinaire ou encore Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Et révisez ces œuvres commentées avec le précieux concours des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Vous avez moins de 18 ans. Cette émission a été pensée pour vous aider à préparer votre oral du baccalauréat de français dans le cadre de l'opération Nation apprenante. Chaque jour sur France Culture, nous vous donnons à entendre et à comprendre un texte important de notre patrimoine littéraire. Aujourd'hui, les contemplations de Victor Hugo, lues pour vous par le comédien Robin Renucci.
Écoutez, révisez, Olivier Gesbert.
Romancier, l'auteur des Misérables est aussi poète. Sorti en 1856, Les Contemplations rassemblent les mémoires d'une âme, celle de Victor Hugo. C'est une perspective autobiographique qui guide l'écriture de cette somme poétique. Mélancolia, le long poème qu'il a été choisi de vous présenter aujourd'hui, arrive après les deux premiers livres, Aurore et L'âme en fleurs, placés, vous l'entendez, sous le signe de la jeunesse. Il est situé au tout début du livre troisième, intitulé Les luttes et les rêves, qui marque l'entrée dans l'âge adulte de l'auteur, son sentiment de responsabilité et les combats qu'il entend mener. Mélancolia est précédée de 14 vers, sorte d'annotation marginale que Victor Hugo a nommée « écrit sur un exemplaire de la Divina Commedia », un court texte qui se termine sur ces mots « Maintenant, je suis homme et je m'appelle Dante ». Le ton est donné, Hugo prend le relais de Dante, poète florentin. Le livre troisième sera celui d'un écrivain de génie qui s'affirme, mais qui entend d'abord raconter l'enfer, comme l'auteur de la célèbre Divine Comédie avant lui, son modèle. Et l'enfer, pour Hugo, ce n'est pas les autres, c'est la misère sociale et la souffrance humaine. Entrons maintenant dans ce poème si particulier qu'est Mélancolia. Pourquoi ce titre latin? Il n'est pas rare que Hugo y ait recours dans ses livres, et c'est le cas à plusieurs reprises dans les Contemplations. Dès le livre premier, il parle de « Vere novo », du retour du printemps. Ou encore « Magnitudo parui », grandeur du petit, le poème final du livre troisième couvre Mélancolia, et « Pauca meae », mes petites choses, titre du quatrième livre tout entier. Cet usage montre une culture latine chez Hugo, et c'est souvent le cas chez les lettrés du XIXe siècle, et au-delà de ça, permet de donner une dimension d'allégorie ou de parabole au poème qui suit. Le mot latin mélancolia lui-même, emprunté au grec, signifie la bile noire, l'humeur noire de la mélancolie. On est loin, vous l'entendez, de l'humeur radieuse des premiers livres des Contemplations. Enfin, Hugo emprunte pour son poème au peintre de la Renaissance, Albrecht Dürer, le titre d'une de ses célèbres gravures sur cuir de 1514, où le joli mot de mélancolie est inscrit en haut à gauche, en lettres capitales. Une œuvre admirée des romantiques et qui avait déjà inspiré à Théophile Gautier un poème. De quand date ce poème de Victor Hugo, Mélancolia? Il porte en fin de texte la mention suivante, Paris, juillet 1838. Mais on sait aussi que l'écrivain profite de ses contemplations pour se réinventer un peu. Les premières traces attestées dateraient de 1846, puis le texte a été repris en 1854 et achevé en 1855, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Le résultat, une composition par tableaux juxtaposés. Peut-être qu'Hugo a voulu montrer que la misère l'avait touché plus tôt qu'on ne le pense, ou alors peut-être qu'il nous faut accepter que le temps de l'inspiration est différent de celui de la composition. Vous allez maintenant pouvoir écouter le poème Mélancolia, de son début jusqu'au vers 254, sachant que le poème en compte 336, en tout, des alexandrins. Et c'est le comédien Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, qui prête sa voix à Victor Hugo et vous invite à écouter pour commencer La pauvreté solitaire d'une femme. Une lecture enregistrée en début de semaine, spécialement pour vous, non pas en studio, à Radio France, mais dans les conditions que l'on sait, confinées.
Mélancolia. Écoutez, une femme au profil décharné, maigre, blême, portant un enfant étonné, est là qui se lamente au milieu de la rue. La foule, pour l'entendre, autour d'elle se rue. Elle accuse quelqu'un, une autre femme, ou bien son mari. Ses enfants ont faim, elle n'a rien. pas d'argent, pas de pain, à peine un lit de paille. L'homme est au cabaret pendant qu'elle travaille. Elle pleure et s'en va. Quand ce spectre a passé, ô penseur, au milieu de ce groupe amassé qui vient de voir le fond d'un cœur qui se déchire, qu'entendez-vous toujours ? Un long éclat de rire. Cette fille au doux front a cru, peut-être, un jour avoir droit au bonheur, à la joie, à l'amour. Mais elle est seule, elle est sans parents, pauvre fille. Seule, n'importe, elle a du courage, une aiguille. Elle travaille et peut gagner dans son réduit, en travaillant le jour, en travaillant la nuit, un peu de pain, un gîte, une jupe de toile. Le soir, elle regarde en rêvant quelque étoile et chante au bord du toit tant que dure l'été. Mais l'hiver vient. Il fait bien froid, en vérité, dans ce logis mal clos tout en haut de la rampe. Les jours sont courts. Il faut allumer une lampe. L'huile est chère, le bois est cher, le pain est cher. Ô jeunesse, printemps, ô bamproie l'hiver. La faim passe bientôt sa griffe sous la porte, décroche un vieux manteau, saisit la montre, emporte les meubles, prend enfin quelque humble bague d'or. Tout est vendu. L'enfant travaille et lutte encore. Elle est honnête, mais elle a, quand elle veille, la misère, démon qui lui parle à l'oreille. L'ouvrage manque, hélas, cela se voit souvent. Que devenir ? Un jour, ô jour sombre, elle vend la pauvre croix d'honneur de son vieux père et pleure. Elle tousse, elle a froid. Il faut donc qu'elle meure. À 17 ans, grand Dieu, mais que faire ? Voilà ce qui fait qu'un matin la douce fille alla droit au gouffre et qu'enfin, à présent, ce qui monte à son front, ce n'est plus la pudeur, c'est la honte. Hélas ! Et maintenant, deuil et pleurs éternels, c'est fini. Les enfants, ces innocents cruels, la suivent dans la rue avec des cris de joie. Malheureuse, elle traîne une robe de soie. Elle chante, elle rit. Ah, pauvre âme aux abois. Et le peuple sévère, avec sa grande voix, souffle qui courbe un homme et qui brise une femme, lui dit quand elle vient, « C'est toi ? Va-t'en, infâme !» Un homme s'est fait riche en vendant à faux poids. La loi le fait jurer. L'hiver, dans les temps froids, un pauvre a pris un pain pour nourrir sa famille. Regardez cette salle où le peuple fourmille. Ce riche y vient juger ce pauvre. Écoutez bien. C'est juste puisque l'un a tout et l'autre rien. Ce juge, ce marchand, fâché de perdre une heure, jette un regard distrait sur cet homme qui pleure. L'envoie au bagne et part pour sa maison des champs. Tous s'en vont en disant « C'est bien, bons et méchants. » Et rien ne reste là qu'un Christ pensif et pâle, levant les bras au ciel dans le fond de la salle. Un homme de génie apparaît, il est doux, il est fort, il est grand, il est utile à tous. Comme l'aube au-dessus de l'océan qui roule, il dore d'un rayon tous les fronts de la foule. Il luit. Le jour qu'il jette est un jour éclatant. Il apporte une idée au siècle qui l'attend. Il fait son œuvre. Il veut des choses nécessaires. Agrandir les esprits, amoindrir les misères. Heureux dans ses travaux dont les cieux sont témoins, si l'on pense un peu plus, si l'on souffre un peu moins. Il vient. Certes, on va le couronner. On le hue. Scribes, savants, rhéteurs, les salons, la cohue, ceux qui n'ignorent rien, ceux qui doutent de tout, ceux qui flattent le roi, ceux qui flattent les goûts, tous hurlent à la fois et font un bruit sinistre. Si c'est un orateur ou si c'est un ministre, on le siffle. Si c'est un poète, il entend ce cœur. Absurde, faux, monstrueux, révoltant. Lui, cependant, tandis qu'on bave sur sa palme, debout, les bras croisés, le front levé, l'œil calme, il contemple serein l'idéal et le beau. Il rêve, et par moments il secoue un flambeau qui, sous ses pieds, dans l'ombre, éblouissant la haine, éclaire tout à coup le fond de l'âme humaine, où ministre il prodigue et ses nuits et ses jours. Orateur, il entasse efforts, travaux, discours, il marche, il lutte, hélas, l'injure ardente et triste, à chaque pas qu'il fait, se transforme et persiste. Nul abri, ce serait un ennemi public, un monstre fabuleux, dragon ou basilic, qu'il serait moins traqué de toutes les manières, moins entouré de gens armés de grosses pierres, moins haï. Pour eux tous, et pour ceux qui viendront, il va, semant la gloire, il recueille l'affront. Le progrès est son but, le bien est sa boussole. Pilote sur l'avant du navire, il s'isole. Tout marin pour dompter les vents et les courants met tour à tour le cap sur des points différents et pour mieux arriver dévie en apparence. Il fait de même. Aussi blâme et crie, l'ignorance sait tout, dénonce tout. Il allait vers le nord, il avait tort. Il va vers le sud, il a tort. Si le temps devient noir que de rage et de joie. Cependant, sous le fait, sa tête à la fin ploie. L'âge vient. Il couvait un mal profond et lent. Il meurt. L'envie, alors, ce démon vigilant, accourt, le reconnaît, lui ferme la paupière. Prend soin de le clouer de ses mains dans la bière, se penche, écoute, épie en cette sombre nuit s'il est vraiment bien mort, s'il ne fait pas de bruit, s'il ne peut plus savoir de quel nom on le nomme. Et s'essuyant les yeux, dit « C'était un grand homme. » Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre. Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer, jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là, ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant. Rachitisme, travail, dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne, en somme, une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Le pesant chariot porte une énorme pierre. Le limonier, suant du mort à la croupière, tire et le roulier fouette et le pavé glissant monte et le cheval triste a le poitrail en sang. Il tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête. Le fouet noir tourbillonne au-dessus de sa tête. C'est lundi. L'homme hier buvait au porcheron un vin plein de fureur, de cris et de jurons. Oh, quelle est donc la loi formidable qui livre l'être à l'être et la bête effarée à l'homme ivre? L'animal éperdu ne peut plus faire un pas, il sent l'ombre sur lui peser. Il ne sait pas, sous le bloc qui l'écrase et le fouet qui l'assomme, ce que lui veut la pierre et ce que lui veut l'homme. Et le roulier n'est plus qu'un orage de coups tombant sur ce forçat qui traîne les licous, qui souffre et ne connaît ni repos ni dimanche. Si la corde se casse, il frappe avec le manche, et si le fouet se casse, il frappe avec le pied. Et le cheval, tremblant, hagard, estropillé, baisse son cou lugubre et sa tête égarée. On entend sous les coups de la botte ferrée sonner le ventre nu du pauvre être muet. Il râle, tout à l'heure encore il remuait, mais il ne bouge plus et sa force est finie. Et les coups furieux pleuvent, son agonie tente un dernier effort, son pied fait un écart, il tombe et le voilà brisé sous le brancard. Et dans l'ombre, pendant que son bourreau redouble, il regarde quelqu'un de sa prunelle trouble, et l'on voit lentement s'éteindre, humble et terni, son œil plein de stupeur sombre de l'infini, où lui vaguement l'âme effrayante des choses. Hélas, cet avocat plaide toutes les causes. Il rit des généreux qui désirent savoir si blanc n'a pas raison avant de dire noir. Calme en sa conscience, il met ce qu'il rencontre ou le sac d'argent pour ou le sac d'argent contre. Le sac pèse pour lui ce que la cause vaut. Embusqué, plume au poing, dans un journal dévot, comme un bandit tuerait cet écrivain diffame. La foule hait cet homme et proscrit cette femme. Ils sont maudits. Quel est leur crime? Ils ont aimé. L'opinion rampante accable l'opprimé et chatte au pied des forts pour le faible est tigresse. De l'inventeur mourant le parasite en graisse. Le monde parle, assure, affirme, jure, ment, triche et rit d'escroquer la dupe dévouement. Le puissant resplendit et du destin se joue. Derrière lui, tandis qu'il marche et fait la roue, sa fiente épanouie engendre son flatteur. Les nains sont dédaigneux de toute leur hauteur. Ô hideux coin de rue où le chiffonnier morne va, tenant à la main sa lanterne de corne, vos tas d'ordures sont moins noirs que les vivants. Qui des vents ou des cœurs est le plus sûr? Les vents. Cet homme ne croit rien et fait semblant de croire. Il a l'œil clair, le front gracieux, l'âme noire. Il se courbe, il sera votre maître demain. Tu casses des cailloux, vieillard, sur le chemin. Ton feutre humble et troué s'ouvre à l'air qui le mouille. Sous la pluie et le temps, ton crâne nu se rouille. Le chaud est ton tyran. Le froid est ton bourreau. Ton vieux corps grelottant tremble sous ton sarrau. Ta cahute au niveau du fossé de la route offre son toit de mousse à la chèvre qui broute. Tu gagnes dans ton jour juste assez de pain noir pour manger le matin et pour jeûner le soir. Et, fantôme suspect devant qui l'on recule, regardez de travers quand vient le crépuscule, pauvre au point d'alarmer les allants et venants, frère sombre et pensif des arbres frissonnants, tu laisses choir tes ans ainsi que leur feuillage. Autrefois, homme alors, dans la force de l'âge, quand tu vis que l'Europe implacable venait et menaçait Paris et notre aube qui naît, et mère d'hommes roulait vers la France effarée et le russe et le hun sur la terre sacrée, se ruer et le nord revomir Attila, tu te levas. Tu pris ta fourche en ces temps-là. Tu fus, devant les rois qui tenaient la campagne, un des grands paysans de la grande Champagne. C'est bien, mais vois, là-bas, le long du vert sillon, une calèche arrive, et comme un tourbillon, dans la poudre du soir qu'à ton front tu secoues, mêle l'éclair du fouet au tonnerre des roues. Un homme y dort, vieillard, chapeau bas, ce passant fit sa fortune à l'heure où tu versais ton sang. Il jouait à la baisse et montait à mesure que notre chute était plus profonde et plus sûre. Il fallait un vautour à nos morts. Il le fut. Il fit, travailleur âpre et toujours à l'affût, suer à nos malheurs des châteaux et des rentes. Moscou remplit ses prés de meules odorantes. Pour lui, Leipzig payait des chiens et des valets et la Bérésina charriait un palais. Pour lui, pour que cet homme ait des fleurs, des charmilles, des parcs dans Paris même ouvrant leurs larges grilles, des jardins où l'on voit le cygne errer sur l'eau, un million joyeux sorti de Waterloo. Si bien que du désastre il a fait sa victoire, et que pour la manger et la tordre et la boire, ce Shylock avec le sabre de Blücher a coupé sur la France une livre de chair. Or, de vous deux, c'est toi qu'on hait, lui qu'on vénère. Vieillard, tu n'es qu'un gueux, et ce millionnaire, c'est l'honnête homme. Allons, debout et chapeau bas, les carrefours sont pleins de chocs et de combats.
Extrait de Mélancolia, poème des contemplations de Victor Hugo, lu par le comédien Robin Renucci. Je vous livre maintenant l'analyse des inspecteurs généraux de l'éducation nationale sur ce texte. Une succession de tableaux, tel est le parti pris esthétique de l'auteur. Le mélange et le goût pour la saccade sont typiques du romantisme, typiques surtout de Victor Hugo. Se construit ainsi un véritable panorama des misères de ce temps qui donne à voir, par des récits de choses vues, une série d'injustices et de souffrances. La mélancolie n'est pas le sentiment intérieur d'un poète tiraillé par son âme, elle vient de l'extérieur, née du spectacle du monde et tout particulièrement de la misère humaine. Le premier épisode est la misère d'une femme, figure pathétique, à quoi répond seulement le long éclat de rire, vers 12, de la foule. Le deuxième est celle de la jeune ouvrière obligée de se prostituer. Le troisième épisode constitue davantage un plaidoyer personnel installant une figure romantique majeure, celle du génie incompris et méprisé dénoncé par le public sa vie durant et qui ne sera admiré qu'après sa mort. Ce mouvement est porté par des traits de satire. Le quatrième épisode montre et dénonce l'horreur qu'est pour Hugo le travail des enfants au XIXe siècle. Surexploitation, main-d'œuvre sous-payée, les enfants du peuple doivent travailler privés d'éducation. Une situation inadmissible aux yeux du poète, une réalité qui défait ce qu'a fait Dieu, vers 131, abîme la beauté de la création, avilit et détruit la condition humaine et ferait d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin, selon Victor Hugo. Le cinquième mouvement montre la triste condition du cheval fouetté par son maître, qui avance cassé, épuisé dans une souffrance d'autant plus déchirante que l'animal est un pauvre être muet. Le poète lui prête ses mots pour exprimer ce qu'il ne peut formuler. Les sixième et septième volets, enfin très satiriques, dénoncent l'injustice à travers les figures de l'avocat servile devant tous les pouvoirs, véritable tartuffe de la société moderne, et les portraits opposés du pauvre voleur et du bourgeois que la société juge irréprochable. À coup d'antithèse, le poème montre qu'à l'un tous les sacrifices, à l'autre tous les avantages. Celui qui a servi l'armée et défendu sa patrie au moment de l'épopée napoléonienne et de son naufrage, dont les noms sont claironnés dans le poème, Leipzig, Bérésina, Waterloo, Blücher, est haï et méprisé quand le profiteur de guerre est considéré comme l'honnête homme. Les deux derniers mouvements de Mélancolia que nous n'avons pas conservés dans cette lecture de Robin Renucci, pour ne pas être trop long et ne pas risquer de perdre votre attention, vous pourrez finir de les lire en ouvrant votre recueil des contemplations. Vous verrez comment Hugo quitte les choses vues pour élargir son propos dans une méditation sur la condition humaine. Elle peut se résumer par un vers maxime, un vers formule, comme les aimait Hugo. Quand on voit le Lazare, on efface Jésus. À la condition de ne pas se tromper de Lazare, dans les évangiles, il ne s'agit pas ici du Lazare ressuscité, mais du pauvre dans la parabole du mauvais riche, dans l'évangile selon Luc. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller jeter un œil sur cet évangile pour comprendre ce qu'a voulu dire exactement Victor Hugo. En tout cas, pour l'auteur, la morale est simple. Tout ce qui méprise la souffrance humaine contredit la loi chrétienne. L'enfer est dans la cité qu'il nous invite à fuir, comme l'indique la toute dernière rime entre ville et asile, des refuges que le poète romantique voit ailleurs, dans les forêts, les bois profonds, les solitudes. Mélancolia, texte charnière des contemplations qui fait passer le poète des heures tendres de l'enfance à l'heure sombre des combats, illustre bien ce romantisme humanitaire auquel s'est rallié Hugo et qui décidera de ses choix politiques futurs marqués par la révolution de 1848, l'opposition à Napoléon III après le coup d'État du 2 décembre 1852 et l'exil de Hugo à Guernesey où il écrit Les Contemplations et Les Misérables. Le camp des humanitaires, c'est celui du catholicisme social de Lamennais, qui eut une grande influence sur la génération romantique. Mais tout ce qu'il dénonce ici, Victor Hugo le fait en poète. Comme le texte est composé par fragments associés, l'alexandrin joue ici de tous ses possibles. Il peut jouer avec la fontaine, exemple, « La fin passe bientôt, sa griffe sous la porte », vers 27. Il peut aussi pleurer dans toute son étendue, étiré par le rythme ternaire, 4-4-4, plutôt que 6-6. Exemple, on vient de voir le fond d'un cœur qui se déchire. S'ouvrir théâtralement aux paroles rapportées, c'était un grand homme. Ou encore, comme le dernier vers, devenir une maxime bien campée sur ses deux hémistiches. L'hémistiche, c'est la moitié d'un vers, séparé dans l'alexandrin par une césure. Je vous la fais entendre. Quand on voit le Lazare, on efface Jésus. On se quitte avec cet alexandrin typiquement hugolien. Et maintenant, tous à vos livres, choisissez l'édition des Contemplations qui vous convient et surtout, lisez. Demain, dernier numéro de la semaine d'Écouter Réviser avec l'École des Femmes de Molière. Le temps d'un confinement, à l'heure de la grande table, Écouter, Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation, à Olivier Barbaran, Philippe Le Guillou et Renaud Ferreira des Oliveira qui l'ont élaborée avec Anne Simsac. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie-Aude Picon avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Merci pour leur aide à Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. Toutes les infos et les liens vers d'autres émissions de France Culture sur le génie littéraire de Victor Hugo sont à retrouver sur la page de Écouter Réviser, une émission à écouter justement du lundi au vendredi à midi sur l'antenne de France Culture ou à réécouter et podcaster sur franceculture.fr. Très bel après-midi à tous.